IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Bourras avec Erwan à la technique. Bonjour Erwan. Bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission réalisée en partenariat avec l'ADPAVAB, un réseau qui rassemble des femmes et des hommes de terrain, attachés au partage d'expériences, au développement des entreprises et à la richesse des relations humaines dans le monde économique. Je tiens à remercier chaleureusement son fondateur Philippe Écran, ainsi que son nouveau président Jean-Luc Mabou pour leur confiance et leur fidélité à notre antenne. Aujourd'hui, mardi 2 juin 2026, nous allons parler d'artisanat, artisanat d'excellence, management humain, innovation technologique, immobilier, qualité de service, intelligence collective et adaptation des entreprises aux nouveaux défis économiques. Et pour illustrer toutes ces activités, j'ai le plaisir d'accueillir, alors il n'est pas encore arrivé mais nous l'attendons, Christophe Lhermitte, fondateur et dirigeant de Nature et Cacao, Patrick Cohen, président de la société Mon Coach Formateur. Bonjour Patrick.
Bonjour, merci de recevoir.
Frédéric Baird, fondateur dirigeant FDBI Imprimante 3D. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et Jérôme Catherine, président de JFC Immobilier. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci messieurs de votre présence sur DFM Radio et d'être nos invités en direct.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors, je propose peut-être un premier tour de table afin que chacun se présente en quelques mots. Donc, Frédéric Baird, je vous donne la parole.
Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Donc, j'ai deux casquettes aujourd'hui puisque je représente le conseil d'administration de l'ADPAVAB. Donc, on pourra dire un petit mot tout à l'heure de son actualité.
Oui, absolument.
Et puis, effectivement, je dirige une société que j'ai créée il y a de nombreuses années qui s'appelle FDBI, qui fait de la prestation de services informatiques et qui a également élargi son activité avec la 3D sous une enseigne commerciale qui s'appelle Imprimante 3D France.
Très bien. Merci, Frédéric. Patrick Cohen.
Bonjour, donc moi je suis coach de dirigeant et de manager, donc coach professionnel. Je suis le dirigeant de la société Mon Coach Formateur, donc je suis coach mais également responsable d'un organisme de formation et je fais plus spécifiquement de la formation management et de la formation en communication interpersonnelle.
Très bien, merci Patrick. Et vous Jérôme ?
Bonjour, donc merci de nous recevoir. De mon côté, donc Jérôme Catherine, j'ai créé la société JFC Immo il y a bientôt 3 ans, avec un constat de se dire que le marché immobilier est de plus en plus complexe, avec une législation qui est de plus en plus difficile à maîtriser, en tout cas au niveau de la gestion locative, que ce soit sur les baux mobilité, la location courte durée, la gestion longue durée, et encore aujourd'hui le bail civil. Et donc mon objectif aujourd'hui est de pouvoir vraiment accompagner sur 3 piliers, l'accompagnement à l'investissement immobilier, l'accompagnement à la gestion immobilière sous toutes ses formes, et puis la vente de biens.
Très bien, merci beaucoup. On reviendra sur cette création d'il y a 2-3 ans, puisque vous avez créé en plein marasme immobilier, presque, j'ai l'impression.
Exactement, mais j'ai surfé aussi sur la vague des JO pour d'accord. Tout ce qui est gestion courte durée. Donc c'était aussi stratégique.
Ceci explique cela.
Exactement.
Merci Jérôme. Eh bien, en tout cas, encore merci d'être avec nous ce matin. Alors, dans une période économique où les entreprises doivent sans cesse se réinventer, mes invités incarnent ce matin, chacun à leur manière, l'innovation, l'exigence et la passion du métier. Frédéric, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'ADPAVAB.
Donc, l'ADPAVAB, notre actualité récente, c'était Effervescence 95, oui. Qui a eu lieu sur le champ de course.
Un vrai succès.
D'Anguin, voilà. Comme chaque année, un grand succès. L'ADPAVAB et son fondateur sont à l'origine de ce salon pour le 95 qui a fait des émules maintenant, puisqu'il y en a d'autres dans d'autres départements. C'est un événement fort pour chaque année s'insérer et rencontrer le tissu économique local. Donc j'encourage tous ceux qui ne connaissent pas à aller sur le site de Effervescence, de regarder ce qu'il en retourne et de ne pas forcément attendre trop longtemps pour s'inscrire pour l'année prochaine parce que ça s'est encore joué à guichet fermé.
Ouais.
Voilà. Donc, et puis ça c'était le passé récent puisque c'était il y a une quinzaine de jours. Et les événements à venir, bah, c'est le déjeuner mensuel le 5 juin prochain, et puis l'AG qui était toujours également un grand moment festif qui aura lieu début juillet.
Très bien. Des déjeuners où vous essayez de réunir, vous arrivez à réunir tous les membres
alors,
généralement.
On n'est jamais tous présents. On est entre 25 et 35 en moyenne. Donc on retrouve effectivement un peu toujours les mêmes têtes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir avec un invité ou des invités qui peuvent potentiellement venir devenir de futurs adhérents ou en tout cas, ça peut être le moment d'une rencontre. Donc c'est toujours intéressant. Ça se passe dans un lieu plutôt sympathique. C'est bon. Voilà. Donc
tout est réuni pour passer un bon moment.
Exactement. En plus d'être un moment professionnel, c'est un moment agréable. Voilà. Surtout qu'il y a un très bon esprit d'entraide. On n'est pas là que pour le business. On est là aussi. Il y a un esprit d'entraide et de camaraderie entre nous qui est assez fort. J'ai découvert il y a quelques années, ça m'a même donné envie d'être assez actif au sein de cette association. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir m'appuyer sur d'autres membres pour des choses différentes, que ce soit administratif, technique. Et c'est, j'y ai trouvé des fournisseurs, quelques clients. Voilà, donc, mais c'est à creuser.
Voilà,
c'est pas facile à retenir. Voilà.
C'est surtout pas facile à prononcer. Je sais que moi, j'ai eu du mal au début à prononcer.
Mais vous trouverez, je pense, le lien sur le site de la radio qui permet d'avoir une bonne idée de ce qui s'y passe. Voilà.
On y reviendra avant la fin de l'émission. On fera un appel aussi si des auditrices, auditeurs convaincus de rejoindre la TAVAB veulent le faire. On citera les liens. Vous-même, donc Frédéric Baird, dirigeant d'entreprise, hein, c'est une des conditions quand même pour faire partie de la TAVAB.
Oui.
Peut-être quelques mots sur votre parcours.
Alors, mon parcours, j'ai créé cette société il y a assez longtemps, donc au XXe siècle, à la fin des années 80, ça date. Alors, je m'en suis échappé quelques années à différents moments. Voilà, donc j'ai une formation assez classique de business à Dauphine, où j'ai enseigné quelques années. Et puis, ça m'a permis de démarrer cette activité de conseil, d'intégration et de prestation de services informatiques. Voilà, donc aujourd'hui, l'actualité à ce niveau-là, c'est l'intégration. On a rentré, dans notre portefeuille un nouvel éditeur qui s'appelle Wavesoft. C'est un ERP qu'on pense robuste, intéressant, modulaire, qui peut intéresser les petites et moyennes entreprises, mais même des TPE qui ont besoin d'une solution souple et surtout conforme, parce que les exigences réglementaires ne cessent d'augmenter. Il va y avoir la facturation électronique qui va tomber sur le dos de tout le monde presque demain matin, puisque c'est pour fin septembre. Donc des solutions qui sont, comment dirais-je, conformes et fiables, chez des éditeurs français indépendants, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, et on sera ravis de pouvoir le démontrer à des gens qui pourraient avoir ce type de besoin.
Et alors donc ce nouvel ERP français, donc Wavesoft, vous arrivez quand même à convaincre les TPE et PME de l'utiliser, parce que j'imagine qu'elles ont déjà un ERP.
Alors il y a deux cas de figure. C'est une activité. Alors Wavesoft n'est pas récent, mais le fait qu'on commence à le distribuer, ça c'est récent.
Donc, d'accord.
L'historique sur ce produit, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises qui peuvent avoir ce type de besoin. Des entreprises qui n'ont pas une solution qui les satisfont et qui donc envisagent éventuellement une évolution vers une autre solution. Donc là, ça peut être intéressant d'évaluer cette solution. Et puis, il y a encore des entreprises de petite ou moyenne taille qui n'ont pas de logiciels de gestion à proprement parler et qui en sont encore à la facturation sous Excel et des choses comme ça. Et là, avec les exigences réglementaires qui augmentent, alors ils peuvent sous-traiter, c'est une solution. Mais il y a un moment donné où il faut quand même maîtriser sa gestion, d'avoir des tableaux de bord, des restitutions et d'avoir quand même une solution intégrée dans l'entreprise, ça peut avoir du sens.
Et la cible de vos clients, quelle est-elle ?
Alors, avec ce produit qui est très souple, elle peut être très large. Donc
très
c'est
bien.
Ça qui est intéressant.
Bonjour Christophe, merci d'être arrivé. Donc, je disais notre cacaotier préféré dans le Val d'Oise. Merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce retard. Les choses se préparent, c'est pour ça.
C'est, l'important, c'est que vous soyez avec nous.
Merci.
Donc, je reprends avec Frédéric Baird. On parlait de cet ERP français, OSSoft, dont certains ont peut-être, en ont peut-être un autre, et vous essayez, vous, de les faire remplacer. Soit ces entreprises n'ont rien du tout et vous essayez de les convaincre d'en utiliser un.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Effectivement, une entreprise commerciale ou une entreprise qui fait de la production peut être intéressée par ce produit. De toute façon, avant de le vendre, on évaluera l'adéquation.
C'est ça.
Donc, il y aura toujours un travail d'avant-vente pour valider que cette solution est une solution pertinente dans le contexte d'une entreprise qui pourrait en avoir besoin. Ça, c'est un prérequis qu'on applique également dans notre domaine d'activité qui est tout ce qui est lié à la 3D, donc imprimante 3D, scanner 3D, tous ces domaines-là, où on est également dans une logique où on veut avant tout valider que la solution qu'on se propose de vendre à une entreprise correspond à son expression de besoin, à son cahier des charges. Et donc, même si on a un site marchand où on va pouvoir vendre un certain nombre de choses, dès qu'on parle d'investissement et de matériel, on reste dans une démarche qui reste classique de revendeur à valeur ajoutée qui va commencer par étudier le besoin avant d'essayer de vendre quelque chose.
Je vous avais posé la question, quelle était la cible de vos clients. Avant de me répondre, j'imagine que celle de FDBI et de imprimante 3D ne sont pas les mêmes.
Alors, oui, très clairement, parce que au niveau d'imprimante 3D France, on a des petites entreprises, mais également des grands groupes comme Orano, Airbus, et des grandes entreprises qui nous ont acheté du matériel, qui nous achètent du consommable, qui nous achètent des dispositifs qui permettent à leur bureau d'études ou au service de méthode d'avoir des outils. Et clairement, c'est pas ces gens-là à qui on va vendre un ERP pour PME. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas besoin de nous, ils sont déjà équipés. Enfin, je leur souhaite. Voilà. Et là, c'est clairement pas notre cible.
Mais du coup, ça permet d'avoir un éventail plus large au niveau de votre clientèle.
Alors, on a du coup un éventail très large de clients et surtout des entreprises très grosses comme effectivement celles que je citais, comme Louis Vuitton et autres. On a eu la chance de commencer à travailler avec eux quand la 3D a explosé il y a une douzaine d'années. Et du coup, ils nous ont référencé, alors que c'est souvent des groupes où il est très difficile de se faire référencer pour une toute petite entreprise comme la nôtre. Et donc, ça nous permet d'avoir une belle carte de visite en termes de référence client et puis surtout de jouer ce service qui les rend contents de quand ils ont de nouveaux besoins, de s'adresser prioritairement à nous pour savoir si on a une solution intéressante à leur proposer.
Bravo, félicitations. Alors, je m'adresse à mes autres invités. Donc, Patrick Cohen, vous-même, vous disposez d'un logiciel tel que Wavesoft ou autre chose ?
Eh bien, non.
Non.
j'ai donc un voisin qui va pouvoir m'inspirer et me conseiller.
Très volontiers. Donc, vous êtes plutôt sous Excel actuellement ?
Oui, en fait, je travaille en fait avec un expert comptable.
Oui.
Et qui m'a conseillé effectivement des plateformes qui me permettent maintenant de pouvoir effectivement éditer mes factures de manière un peu plus professionnelle.
Oui,
parce qu'effectivement, il y a encore pas très longtemps.
Donc la facture électronique, ça vous fait pas peur ?
Pas du tout. J'ai plus qu'à appuyer sur un petit bouton et ça va
marcher tout seul.
Ouais, absolument.
Christophe Lhermitte.
On s'y est mis déjà depuis quelques mois, on s'y est déjà mis il y a quelques mois, et aussi on a aussi changé de système de caisse pour que tout soit, on va dire, dans la simplicité. C'est-à-dire, on a deux ans, encore un an de rodage, mais sans bonne voie, sans très bonne voie.
C'est vrai que ces nouvelles caisses, elles sont quand même assez formidables qu'on trouve maintenant.
Oui.
C'est un vrai gain de temps pour vous.
C'est un vrai gain de temps. On a mis un monnayeur, donc en fait, c'est une sécurité, rapidité de comptage aussi. J'y vois que des inconvénients.
Des avantages.
Des désavantages, pardon, oui.
Aucun inconvénient.
Aucun inconvénient, mais que des avantages.
Et au niveau de la comptabilité aussi,
le comptable va chercher directement les éléments, la TVA, les rapports de caisse. Donc c'est une grande simplicité. Il faut que tout le monde s'y mette. Voilà.
Ce sont des machines quand même très performantes, parce qu'on voit que selon la pièce que l'on met, elle la refuse ou elle l'accepte. Donc c'est vraiment.
Il y a pas de possibilité d'erreur.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et non, c'est.
Est-ce que c'est un gros investissement ?
Oui, c'est un gros investissement.
Ouais. et avec un retour sur investissement au bout de combien de temps, selon vous?
C'est tout dépend. Je vais dire que la sécurité n'a pas de prix, entre guillemets. Mmh. La tranquillité n'a pas de prix. Mmh. Donc le je vois le avant, le après. J'ai un établissement avec un et l'autre 100. Déjà, rien que le soir, on gagne un quart d'heure à pas compter. Donc c'est un quart d'heure plus un quart d'heure, etc.
Ah
donc
oui, voilà.
La compta doit aussi prendre les éléments. Donc en fait, je pense que c'est...
Oui, c'est ça. Ça se calcule pas comme ça, concrètement. Mais
aujourd'hui, c'est le confort, le gain de temps qu'on peut... En tant qu'entreprise, on est obligé de compter le temps. Voilà.
Bien sûr.
Temps, c'est le temps.
Merci Christophe.
Merci.
Hermite. Jérôme, Catherine, alors vous, vous en êtes où au niveau des logiciels de gestion?
Moi, de mon côté, j'utilise des logiciels spécialisés vraiment dans la gestion immobilière qui sont disponibles, qu'on appelle en SaaS, donc vraiment en ligne, accessible de n'importe où. Donc c'est aussi l'avantage de l'ère du digital.
Bien sûr.
Je suis sur une profession mobile, très sédentaire quelque part. Donc,
oui, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas en avoir.
Exactement, donc c'est aussi l'avantage de pouvoir travailler de n'importe où. Même si forcément il faut aussi aller sur place pour gérer les appartements.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que tous ces outils permettent surtout de gagner du temps et de se recentrer sur notre métier de base. Parce qu'en fait, pour tous les entrepreneurs que nous sommes, l'objectif c'est quand même de pouvoir faire au maximum son métier. Mm-hmm. Donc se recentrer sur son métier et se consacrer au niveau du temps à ce qui fait notre spécificité. Mm-hmm. Et en l'occurrence, c'est pas forcément de passer du temps sur l'administratif.
Bien sûr.
Voilà. Mm-hmm. Mais il faut savoir le faire bien et ces outils-là aident.
Frédéric Baird, ces arguments vous convainquent?
Ah oui, complètement. Il y a des tas de métiers où il y a des verticaux qui sont la solution incontournable. Et puis, il y a des métiers où, au contraire, une solution plus adaptable est nécessaire. Mmh. Donc, c'est ces entreprises-là qui peuvent être notre cible. Mmh. Tout à fait.
Aujourd'hui, quel est le pourcentage entre FDBI et imprimante 3D?
Alors, c'est difficile de comparer. Est-ce qu'il y a une activité qui est plutôt orientée négoce et une activité qui est complètement de service? Donc, je dirais que c'est du 80-20, mais ça ne représente pas grand-chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la 3D a pris une très grosse part. L'activité traditionnelle demeure, l'activité historique. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est clair que la 3D a pris une grosse importance, oui. Surtout qu'on a élargi le potentiel, le nombre de produits, des imprimantes 3D, on a élargi au scanner 3D, graveur et découpeur laser. Et maintenant, on est en train d'intégrer une gamme de CNC, donc... ça fait des outils supplémentaires, donc un potentiel de
vente supplémentaire. Oui, un choix plus vaste. Cet ERP français, donc Wavesoft, vous en commercialisiez un autre?
Oui.
Qui n'était pas français?
Si, aussi.
Si, ah oui, d'accord.
Pour des raisons de définition de produits, on a trouvé intéressant de bifurquer et de proposer Wavesoft aujourd'hui.
Mm-hmm. Non, mais parce que c'est bien de promouvoir des solutions françaises.
Alors, on a toujours promu des solutions françaises, mais c'est un marché qui a été très bouleversé, parce qu'il y a quelques gros acteurs qui ont un peu mangé tout le monde.
Oui.
Et qui ont tendance à avoir des politiques assez viriles pour
agressives.
Remplacer des produits qui existaient depuis longtemps dans des entreprises par des solutions natives chez eux qui créent souvent du désagrément. Et donc c'est pour ça qu'on cherchait une solution indépendante qui avait un écosystème bien autonome, bien délimité et qui était conforme. Voilà, donc il n'y en a pas énormément sur le marché.
D'accord. La souveraineté numérique, c'est un vrai sujet pour les PME?
Je pense que ça doit l'être. Je pense que tout le monde n'en est pas forcément conscient. Donc là, il y a des tas d'autres métiers que les nôtres pour tout ce qui est sécurité, sauvegarde. Voilà, à la PAVAB, on a plusieurs entreprises dans ce domaine d'activité qui sont peut-être déjà passées ou qui pourront revenir vous en parler. Donc là, on est moins intervenants. Mais en tout cas, c'est clair que la maîtrise de ces données et la sécurité de ces données sont des enjeux très importants.
Alors, vous évoquez, bien sûr, on est dans un contexte économique compliqué en ce moment, et vous évoquez un climat plus favorable à l'investissement. Vous sentez que les entreprises hésitent à investir en ce moment?
Ah oui, très clairement. Une grosse partie de nos activités, c'est de vendre des machines, donc des investissements. Mmh. Et en ce moment, les investissements sont très, très, très ralentis. Entre un climat politique compliqué, des élections à venir, un climat international plus qu'incertain, la hausse des coûts des matières premières. Dans les imprimantes 3D, la plupart des matériaux, c'est du plastique, donc ça, c'est de la pétrochimie. Enfin, tout fait qu'en ce moment, il y a un climat qui est très arrêté. On a beaucoup de projets, beaucoup de devis en cours et les commandes ne tombent pas.
Ne tombent pas, oui. Comme toujours quand il s'agit d'investissement. Mm. Je vous pose la question, Patrick. Vous le ressentez comment, ce climat, aujourd'hui ?
Alors moi, je suis dans une situation un peu paradoxale. Différente. Parce qu'en réalité, effectivement, on sent la tension dans les entreprises. Et bien souvent, c'est à ce moment-là où on se pose la question de savoir comment on peut faire redescendre la tension, comment on peut faire en sorte que dans l'entreprise, l'ambiance soit meilleure, que les équipes soient plus mobilisées. Et du coup, en réalité, on peut faire appel à du coaching professionnel, que ce soit en individuel ou en collectif, pour faire en sorte que ces moments compliqués puissent se passer au mieux.
C'est
Alors, plaisir. Il y a des entreprises qui vont réagir comme ça, et puis il y a celles qui vont plutôt resserrer les budgets, ou non pas les budgets tout simplement, et là pour le coup on va sentir effectivement des hésitations sur les investissements ou des reports.
Oui, et en même temps, comme si vous avez un organisme de formation, c'est pris en charge par les OPCO.
Alors c'est pris en charge souvent.
Oui. Mais pas systématiquement.
Mais pas systématiquement. Et puis, après, ça dépend aussi des entreprises elles-mêmes. Hein, si elles priorisent justement la formation ou si, au contraire, ils vont faire semblant de ne pas voir que c'est vraiment essentiel.
Il faut le faire. Voilà. Merci Patrick Cohen. Christophe Lhermitte, est-ce que ce climat tendu a une répercussion sur le chocolat?
Alors, sur l'activité globale, oui, bien sûr. On n'a pas des produits de première nécessité alimentaire. Donc voilà, les gens se font plaisir au moment T. Là, donc c'est la fête des mères, donc on travaille sur la fête des mères. Là, on développe les glaces aussi. Donc les glaces, c'est un achat spontané. Voilà, mais on sent, on prend une boule, on prend pas deux boules. Ah, les parents prennent pas une de, quand ils sont en famille, c'est la priorité aux enfants et les parents font attention. Il y a un climat d'incertitude qu'on ressent déjà depuis plusieurs mois, Donc voilà, donc on serre les coudes, on est attentif. J'ai une superbe équipe et voilà, donc.
Oui, et puis des super produits.
Ouais, voilà, alors, donc voilà, la superbe équipe fait des superbes produits. Voilà.
C'est vrai.
Les entreprises aussi ont ralenti sur les commandes aussi, qu'avant les tablettes personnalisées, on faisait. Voilà, donc c'est un enchaînement qui suit
l'activité.
Ouais, voilà.
Merci Christophe. Et vous, Jérôme, alors, comment ressentez-vous ce climat aujourd'hui ?
Il y a vraiment deux phénomènes, j'ai envie de dire, sur tout ce qui concerne les transactions immobilières. On sort vraiment de deux années très compliquées, donc avec une augmentation des taux, beaucoup d'incertitudes politiques et quelque part beaucoup de personnes qui voulaient investir et qui ont attendu en espérant que ça aille mieux quelque part. Et donc on constate qu'il y a une légère reprise du marché, mais qui a évolué en tout cas en Île-de-France. Donc globalement, ce que les chiffres disent, c'est plutôt une baisse des ventes de 12% à Paris intramuros, mais une accélération des ventes sur tout ce qui est couronne proche Paris, donc en banlieue, notamment avec l'arrivée du Grand Paris, quelque part des nouvelles lignes de métro qui arrivent vraiment et qui permettent d'aller dans Paris beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie transaction immobilière où c'était très difficile ces deux dernières années et là on sent un redémarrage. Et puis sur tout ce qui concerne le marché de la location courte durée, quelque part qui est aussi mon positionnement, beaucoup disent c'est la fin du Airbnb, on va plus réussir à louer, etc. Mais en fait, c'est une conséquence finalement à une forte croissance qu'il y a eu sur ces dernières années de ce marché. Parce que le marché français compte environ 1 million d'annonces de location de courte durée, donc surtout l'Hexagone, ce qui est en fait la somme du marché espagnol, portugais et italien.
Oui.
Donc une fois qu'on dit ça, on se rend compte de l'offre.
Ça relativise.
Très importante en France, et en fait c'est pour ça que c'est plutôt une conséquence, non pas pour interdire à outrance la location courte durée, mais plutôt mieux la gérer pour éviter toute forme de nuisance. Et en fait, quelque part, c'est un marché qui a cru assez raisonnablement, parce que dans des périodes difficiles, on cherche à optimiser ses finances, et sur des personnes qui sont déjà propriétaires, on va donc chercher à optimiser sa rentabilité. Donc le Airbnb représentait quelque part une solution pour pouvoir maximiser la rentabilité de propriétaires, et puis beaucoup qui ont aussi de l'épargne. L'épargne des Français n'a jamais été aussi importante, hein, si on en croit
les banques. Ça fait des années que l'épargne des Français est très importante.
Exactement, et du coup beaucoup se posent la question, bon, finalement comment j'utilise cette épargne qui dort en banque, est-ce que j'ai pas tout intérêt à investir, à développer mon patrimoine avec des solutions, parce que autant on parle de réglementation sur la courte durée, mais ça touche principalement les grandes villes, les grandes agglomérations. Oui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans des plus petites villes, et puis ça permet aussi de développer quelque part aussi le tourisme et l'attractivité d'autres villes.
Oui, c'est ça. On reviendra sur le Airbnb quand je vous interviewerai plus précisément. Merci Jérôme. Frédéric, avant de faire une pause, vous êtes donc adhérent de l'ADPAVAD. Je comprends que vous êtes investi. Pourquoi avoir rejoint l'ADPAVAD au départ?
On est depuis relativement peu de temps à Argenteuil, puisque la société, je l'ai créée à Paris, donc il y a longtemps, et on est arrivé en 2000, juste après le premier confinement à Argenteuil, et on était très bien accueillis d'ailleurs par la mairie, la municipalité, les services municipaux qui nous ont aidés à recruter. Enfin, donc je dois dire que c'était une très très bonne surprise déjà à ce niveau-là, et c'était un prolongement que de s'intéresser à une association locale d'entrepreneurs qui permettait également de s'intégrer plus vite dans le tissu économique, et ça a joué pleinement son rôle, donc et de façon agréable en plus. J'insiste sur ce point parce que c'est parfois on peut avoir l'impression que ce genre de réunion c'est un peu un pinceau, mais là c'est en plus loin d'être le cas. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Oui,
et voilà, la motivation première c'était ça, c'était l'intégration.
Il y a un vrai partenariat aujourd'hui avec la mairie d'Argenteuil. On sent que vous êtes complètement intégré dans la vie de la ville.
Oui, c'est-à-dire que le maire et son équipe sont très moteurs pour développer l'économie, mais pas que. Leur idée forte, c'est que les gens puissent travailler à Argenteuil, mais également habiter et vivre à Argenteuil. Donc il y a une vraie synergie. Il y a des friches industrielles qui veulent garder pour de l'activité économique et la protéger de prédation immobilière pour l'habitat, mais également de développer l'habitat et tout ce qui va autour. Donc comme c'est un grand terrain, c'est comme une grande ville, Argenteuil, en termes de superficie.
C'est la deuxième plus grande ville en région parisienne.
Voilà. Donc ils ont des moyens et une vraie volonté de combiner les deux. Et donc, du coup, de jouer le jeu avec nous, et quand on a besoin de quelque chose, d'être à notre écoute et d'être accompagné. Aussi bien au niveau de l'association que d'un simple entrepreneur qui va les trouver en disant, bah, tiens, je cherche une assistante, est-ce qu'il n'y a pas... Vous pouvez nous aider. Et ça a été souvent le cas.
Et donc, vous faites partie de l'ADPAVAD depuis combien de temps?
Trois ans, je crois.
Trois ans. Près, oui. Ah oui, ça reste récent quand même.
Voilà.
Ouais, très bien. Merci Frédéric. Allez, on marque une pause avec Foule Sentimentale de Alain Souchon. À tout de suite.
Oh là là, la vie en rose. Le rose qu'on nous propose. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal.
les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lussulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette. Du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif idéale, attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous voici de retour et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission en compagnie d'adhérents de l'ADPAVAB qui sont Christophe Lhermitte, fondateur et dirigeant de Nature et Cacao, Patrick Cohen, président de la société Mon Coach formateur, Frédéric Baer, fondateur dirigeant de FDBI Imprimante 3D et Jérôme Catherine, président de JFC Immobilier. Christophe, je m'adresse à vous, donc merci d'être avec nous. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, Christophe, en tout cas dans les locaux de IDFM. La vraie nouvelle qu'il faut annoncer, c'est votre installation à Saint-Gratien,
exactement,
Christophe.
Exactement, oui, depuis déjà le 21 décembre.
Oui, donc,
ça passe vite. Attendu aussi, parce que je souhaitais depuis des années m'installer sur Saint-Gratien. Chose faite, maintenant, il y a plus. On a été très bien accueillis.
Oui.
Donc voilà. Donc c'est un nouveau challenge et développement aussi. Voilà.
Alors, ce qu'il faut dire aussi de vous, Christophe, c'est que vous êtes un véritable artiste. On peut même dire un chocolatier d'art. Je vous laisse nous présenter un petit peu tout ce que vous faites avec le chocolat.
Alors, donc, pour un petit rappel, on a fait Notre-Dame en chocolat. Mmh. Donc, voilà. Et là, en arrivant à Saint-Gratien, elle n'a pas apprécié le coup de Saint-Gratien. Elle a fondu. Voilà.
Ah, mince.
Donc, elle est encore visible parce qu'en fait, ça, je trouve ça assez hilarant même. Parce que en tant que chocolatier, présenter quelque chose d'esquinté, c'est pas terrible. J'aime pas ça. C'est pas dans mes...
Dans vos valeurs.
Dans mes valeurs, mais en fait, la réaction de nos clients, de ceux qui passent devant, ah, vous avez reproduit Notre-Dame qui a fondu, qui a brûlé.
Qui a brûlé.
Ah bah, du coup, je laisse. donc voilà, donc c'est vous pouvez passer, elle est toujours présente. Il y a un côté fondu et un côté intact.
Et la Tour Eiffel, elle supporte bien.
La Tour Eiffel, elle supporte très très bien. J'en ai fait une dernièrement, la semaine dernière, pour un anniversaire d'une centenaire.
Ah oui.
Voilà. Donc les bustes. Hein, donc
oui.
J'ai quand même eu le plaisir de travailler avec Frédéric sur un scanner pour justement faire de la reproduction identique de personnes. Donc,
ah très bien.
J'ai fait notre ami Pierre Couchy.
Ah oui,
voilà,
j'ai reçu il y a quelques jours.
Donc voilà, il est en chocolat, il est visible dans ma boutique aussi, lui. Et voilà. Salut Pierre. Et voilà, donc dernièrement, j'ai eu une demande aussi bien particulière. Une grande maison de luxe m'a contacté pour faire un diamant.
Ah oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux.
Pour faire un diamant, et j'ai dans mes clients un diamantaire, entre guillemets, et qui m'a fait un moule en résine pour refaire le diamant. Donc en fait, j'ai été comblé parce que j'ai eu affaire à un spécialiste pour me faire un moule pour ressembler à un diamant. Donc c'était extraordinaire. Donc ça s'est concrétisé. Donc voilà. Donc c'était bien sympathique. Donc j'ai toujours des demandes originales. Voilà. Donc c'est très plaisant parce qu'en fait on se dépasse à chaque fois. Voilà. Là je suis en train de faire des cassettes vidéo. Voilà.
D'accord. Et il faut compter combien de temps pour une œuvre originale comme le diamant, par exemple? Du début à la fin,
donc là, c'est des temps quand même très exceptionnels. Oui. Parce qu'en fait, j'ai eu des partenaires, un partenaire qui a été réactif. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est la réactivité. Mm-hmm. Bon, désolé, je fâche, mais c'est ça, hein, c'est la réactivité de nos partenaires.
Qui n'est pas toujours celle que vous aimeriez.
Oui, parce qu'en fait, nous, on travaille toujours dans l'urgence.
Oui.
Parce qu'en fait, les gens ont des idées. J'ai oublié, c'est l'anniversaire de ceci. Donc, moi, j'ai que quelques jours. Là, j'ai eu... mon partenaire m'a proposé fortement, il m'a dit, Christophe, refuse pas la commande, parce que je sais refuser des commandes.
Oui.
Et il me dit, ça se refuse pas, ça.
Va au charbon.
Et je l'ai sorti en moins d'une semaine.
Ah, d'accord, c'est pas mal quand même.
C'est dingue, parce que c'était un diamant en forme de diamant, de 15 cm de diamètre, donc c'est énorme.
À quel moment vous avez compris que vous pouviez transformer le chocolat comme ça en œuvre artistique?
Donc c'est avec les gens qui m'entourent, ni plus ni moins.
Ah oui,
ouais, on forme une vraie équipe.
Avec des demandes.
Avec des demandes. Non, alors donc en fait, c'est on va passer autrement.
Oui.
Depuis au moins 15 ans, je côtoie le monde de l'entreprise, donc. C'est Pierre Clouchy qui m'a envoyé au monde de l'entreprise. Mmh. Et du chocolat, c'est bon. Et on me parlait de prix. Alors moi, je ne vends pas un prix de chocolat. Non. Je vends une qualité de chocolat tout. Et après, il y a un prix derrière. Voilà. Et le fait d'aller vers l'entreprise, je me suis dit, symboliser l'entreprise est nettement plus gratifiant qu'une boîte de chocolat toute simple.
Oui, voilà.
Donc, je n'avais pas de nom. J'essaye d'en avoir un, tout du moins, de faire une qualité. Et en fait, j'ai voulu mettre les entreprises en valeur.
Ça
a démarré comme ça. Puis le défi aussi, voilà, parce que j'ai investi avant d'avoir le marché. Donc, voilà.
Bien sûr, oui. Mais bon, vous avez fait un pari qui finalement s'est révélé positif.
Oui. Si ça devait le refaire, je le ferais.
Vous le feriez.
Donc voilà. Et tout ça, c'est venu aussi avec mon équipe
qui est sous les derniers mois.
Et on avance ensemble. Voilà. Donc sans eux, je suis rien. Et sans moi, je suis. Voilà.
c'est le prof d'une équipe, d'une belle équipe.
Ouais. Donc voilà, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi en permanence. Voilà. Donc les demandes, on essaye de répondre toujours aux demandes. Donc voilà.
Merci Christophe. Alors je m'adresse à mes trois autres invités. Vous connaissez tous le chocolat de Christophe, bien sûr.
Frédéric,
oui, puisque vous avez...
Oui, puisqu'on lui a fourni effectivement ce scanner 3D. C'est vrai que le cœur de notre activité, c'est plutôt les industriels. Mm-hmm. Et c'est génial d'avoir l'occasion de découvrir d'autres activités, d'autres métiers. Surtout avec des gens qui ont un sens de l'innovation. Donc ça, c'était très agréable de pouvoir travailler avec Christophe et son équipe. On a aussi vendu des scanners 3D dans des centres de recherche pour de la paléontologie, enfin des choses qu'on découvrait complètement. Et c'est très passionnant. Ce qui est le plus passionnant dans notre métier, c'est de découvrir les applications.
Oui, de découvrir ce qu'on peut en faire.
En plus, Nature et Cacao font des produits qui sont délicieux.
Oui, c'est du chocolat bio.
Finalement, ça compte
Ça compte, voilà. C'est vrai. Patrick Cohen, connaissez-vous le chocolat de Thierry
Eh bien, non. Non, je ne connais pas... le chocolat de Christophe.
Voilà, on vous encourage à aller dans la boutique soit d'Argenteuil, soit de Saint-Gratien, il est excellent ce chocolat.
Je vais me ruer dans les, dans les deux magasins.
C'est bon le chocolat aussi.
Ah oui, non, j'adore le chocolat.
Vous qui faites du coaching de manager, vous devriez ajouter cette dimension.
Non, mais en tout cas, j'ai très envie de faire connaissance avec cette excellence.
Avec grand plaisir.
Et vous, Jérôme ?
Deux noms, pour être honnête, mais j'ai pas encore eu l'occasion, donc je ne vais pas attendre finalement d'aller.
Oui, non, n'attendez pas, parce que vraiment, c'est un délice. Christophe Lhermitte, donc vous êtes adhérent de la PAVAB, je ne le savais pas, je l'ai découvert avec Jean-Luc Mabou. Et pourquoi avoir
été... Alors donc, je suis adhérent environ depuis une quinzaine d'années, je pense, depuis je suis arrivé un an après, il me semble... ça fait un petit moment. Bah, c'est un moment de rencontre, tout simplement, de chef d'entreprise. J'ai fait pendant longtemps les desserts aussi pour Effervescence. Bon, voilà, donc c'est un partage et des rencontres.
C'est surtout rencontres.
Des belles rencontres. Donc, voilà.
Merci en tout cas. Merci d'être un ambassadeur du savoir-faire français, Christophe. Et nous régaler avec votre chocolat. Allez, on fait une nouvelle pause et là, je vous propose d'écouter Amir avec son titre Rétine.
C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin, je ne voulais pas me dévoiler. Mais ma pudeur, tu l'as volée, le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. C'est qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée. Comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, nous avons notre spécial At Pavab en compagnie de Christophe Lhermitte, fondateur et dirigeant de Nature et Cacao, Patrick Cohen, président de la société Mon Coach Formateur, Frédéric Baird, fondateur dirigeant de FDBI et imprimante 3D, et Jérôme Catherine, président de JFC Immobilier. Alors, Patrick Cohen, peut-être quelques mots aussi sur votre parcours. Oui. Comment devient-on coach formateur?
Moi, j'ai fait ma carrière essentiellement dans la communication et les médias. J'ai travaillé dans des groupes comme le groupe Le Parisien.
D'accord.
Également dans le groupe Havas. J'ai également travaillé dans une société qui s'appelle Spire. Qui s'appelait Spire Communication, et là je me suis occupé du développement commercial de solutions tech, donc applications, sites internet, et également travaillé dans un groupement de pharmaciens. Et j'ai également eu une première expérience entrepreneuriale, puisque j'ai créé il y a de nombreuses années maintenant une agence de communication que j'ai développée pendant 5 ans. Et puis, au bout de tout ce parcours, il y a à peu près maintenant 6 ans, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je préfère faire, moi, dans ma vie professionnelle? Et ce que je préfère faire, ce que j'ai toujours aimé faire, c'était optimiser, en fait, le potentiel des personnes qui m'étaient confiées. Mm-hmm. Et du coup, croyant à la singularité des personnes, à titre d'exemple, lorsque j'étais directeur commercial, je ne voulais pas m'entourer d'une armée de clones où tous les commerciaux se ressemblaient, mais je cherchais justement à avoir des personnalités différentes, parce que les clients eux-mêmes sont différents.
Absolument.
Et c'était important de pouvoir justement avoir une diversité dans l'équipe et d'optimiser le potentiel de ces personnes au service d'un collectif, d'un objectif, pour que tout ça fonctionne, et ça a été plutôt le cas. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire un métier, je suis retourné sur les bancs de la fac à Cergy, il y a donc maintenant 6 ans, pour passer mon DU d'exécutif coaching, donc coaching professionnel, à destination des dirigeants, managers, sur des problématiques donc de professionnels, souvent liées à titre individuel à des sujets de développement de leadership, d'amélioration de la posture managériale, et également de l'amélioration de la communication interpersonnelle. Donc ça c'est sur la partie coaching individuel. Sur la partie coaching d'équipe, là on va travailler sur des sujets de transformation, de cohésion et de communication. Ça c'est sur le coaching d'équipe et coaching d'organisation, lorsque je dois accompagner plusieurs lignes en fait hiérarchiques dans l'organigramme. Et puis je souhaitais faire du coaching avant tout, et la première demande que j'ai eue quand j'ai créé ma société, c'était une demande de formation. Donc du coup j'ai créé donc un module de formation pour démarrer sur le management, et je me suis fait immédiatement certifier Calliope, donc certifié qualité, qui au-delà de la structuration de l'entreprise me permettait aussi pour mes clients de pouvoir accéder à des financements.
Son CPF.
Exactement, enfin l'OPCO en l'occurrence. Mais du coup, ça fait maintenant à peu près 5 ans que j'ai développé cette activité.
Et donc, avec le recul, 5 ans après,
c'est une aventure absolument passionnante.
Oui. Aucun regret.
Surtout pas, parce qu'en fait
le regret peut-être de ne pas avoir commencé plus tôt.
Non, j'ai même pas ce regret là, parce qu'en fait je pense que c'est aussi l'expérience vécue en entreprise, que ce soit dans des très grosses entreprises, puisque j'ai eu l'occasion de le faire, ou dans des petites entreprises, puisque j'ai travaillé aussi dans des PME, et puis j'ai eu ma petite structure à moi aussi. Donc tout ça en fait c'est un cumul d'expériences qui permet justement de bien comprendre les contextes de mes clients. Donc je pense pas que ça aurait été mieux de commencer plus tôt. Je crois que
Exactement. Vous étiez mature pour vous lancer dans cette aventure.
Ouais.
Alors, vous intervenez beaucoup sur la communication interpersonnelle et la gestion des tensions. Le climat économique actuel, justement, rend peut-être les relations professionnelles plus complexes. Vous avez une forte demande en ce moment.
Oui, alors, je précise quand même que le coaching, ce n'est pas uniquement quand ça va pas.
Oui.
Parce que, typiquement, moi, j'accompagne, par exemple, des personnes qui sont sur des prises de poste, qui viennent d'être promues. Et vous avez des entreprises qui ont une culture du coaching, et qui, de manière à ce que la personne nouvellement promue puisse évoluer dans les meilleures conditions, font appel à un coach pour travailler justement sur les postures. Donc voilà, ça, le coaching, ce n'est pas que quand ça ne va pas. Mais il est vrai que on fait appel beaucoup à un coach professionnel lorsqu'il y a des dysfonctionnements, des tensions, donc que ce soit sur un plan individuel. Donc ça peut être un dirigeant qui a un problème de communication avec une personne de son équipe ou plusieurs personnes de son équipe. Donc on va travailler autour de ça, de cette relation et comment améliorer la communication. Et puis au niveau des équipes, ça peut être aussi effectivement des dysfonctionnements de cet ordre. Alors, parfois, pour donner un exemple concret, on vous appelle parce que vous avez dans la structure des équipes qui sont très organisées en silos, qui communiquent pas trop dans l'entreprise d'une équipe à l'autre. Et puis il s'avère que vous allez avoir une organisation où on va demander effectivement aux uns et aux autres de mieux travailler ensemble. Donc là, il peut y avoir effectivement un petit peu de complexité. Et moi, mon job, ce sera d'intervenir au niveau de ces équipes pour pouvoir effectivement les amener à s'ouvrir à l'autre, à mieux communiquer ensemble, à mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement, à mieux se connaître. Et donc tout ça se fait donc sur la base d'ateliers et de séminaires qui vont être plus ou moins long en fonction des problématiques qui seront proposées.
C'est la question que je voulais vous poser. Une mission dure combien de temps en moyenne?
Ça dépend. Moi, j'ai des missions qui ont duré une journée. Mmh. Et puis, j'ai des missions qui ont duré un an et demi à raison d'un séminaire tous les trimestres sur un chantier qui était beaucoup plus lourd. L'idée était justement de pouvoir rapprocher des équipes. Il y avait un peu de tension dans les équipes et il y avait surtout des tensions entre les managers des équipes. Lorsque l'on a... s'est penché sur le sujet, en fait, je me suis rendu compte que avant de réunir toutes les équipes, il fallait déjà réunir les managers, travailler en amont avec les managers.
Il faut que vous arriviez à déterminer le point faible de la...
En tous les cas, le dysfonctionnement. Donc c'est sûr que si les managers eux-mêmes ne s'entendaient pas, forcément, c'est un peu compliqué de demander aux équipes de le faire. Donc on a travaillé sur les premiers séminaires avec les managers pour pouvoir effectivement les faire se dire des choses aussi, parce que dans l'entreprise, malheureusement, il y a des vrais sujets d'implicite. On ne dit pas trop les choses. Mon job, c'est de faire en sorte, dans un cadre évidemment très protégé, de faire en sorte que les choses se disent. Et quand elles se disent, en général, ça va beaucoup mieux. Et c'est typiquement ce qui s'est passé. Donc les managers ont commencé à mieux se connaître, mieux se comprendre. Le fait d'expliciter les choses a permis d'arrêter ce qui fait très mal aux entreprises, c'est la machine à hypothèses. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne se dit pas les choses, on imagine les choses. Dans un contexte un peu tendu professionnellement, on va forcément imaginer des choses qui ne seront pas forcément très positives. Et en réalité, quand les gens commencent à s'exprimer, encore une fois dans ce cadre protégé, les choses se passent beaucoup mieux. Et là, une fois que les managers se sont tapés dans la main, c'était beaucoup plus facile d'emmener les équipes derrière. Et c'est ce qui s'est passé, et ça s'est très bien passé. Donc ça, c'était une intervention beaucoup plus longue. Maintenant, il peut y avoir des interventions beaucoup plus courtes, one shot. Ça, c'est vraiment très, très singulier d'une entreprise à l'autre.
La situation.
Exactement.
Alors, pour vous faire interagir, mes autres invités, Jérôme, Catherine, ça vous viendrait l'idée de faire appel à un coach pour... Vous travaillez plutôt seul aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Tout à fait,
donc vous n'avez pas ce problème de... Bien que vous pourriez avoir besoin de conseils sur la gestion ou sur...
Je pense que c'est pas naturel, en fait, de se faire accompagner, de se faire coacher. Pour autant, il y a une vraie valeur ajoutée, pour le coup. Et même quand on est seul, parce que je pense que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes quelque part.
Oui,
et du coup, on se met aussi parfois des barrières. Et c'est aussi, je pense, à ça que sert le coaching. C'est vraiment s'auto-discipliner, s'auto-contrôler quelque part, et puis apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer aussi bien ses émotions que son image. C'est aussi beaucoup une question d'image, parce que autant on se connaît, mais autant on ne se rend pas toujours compte de l'image qu'on renvoie à d'autres personnes autour de nous. Et c'est aussi tout l'intérêt d'un coach qui, au-delà du regard extérieur, va avoir en fait ce regard critique avec aussi les méthodes qui vont bien. Parce que j'ai envie de dire, n'importe qui autour de nous peut avoir un avis, mais au-delà de l'avis, c'est surtout comment on gère et comment on fait mieux pour la fois d'après.
Oui, avoir un œil professionnel sur certaines difficulté ou voilà, évolution. Ouais.
Tout à fait, même si on est seul. Donc finalement, on n'est jamais vraiment seul parce que l'entourage, quand on travaille seul, ça va être la clientèle.
C'est autre chose. Hein. Ouais. Et peut-être justement parce qu'on est seul, on peut avoir besoin d'une aide.
Oui, alors très intéressant effectivement ce que tu viens de dire, parce qu'en fait l'espace de coaching est un espace vraiment très particulier, dans la mesure où c'est un espace déjà de non jugement. Le coach, il est pas là pour
c'est important de le dire,
c'est pas bien, etc. On est dans une logique de non jugement et sur du coaching individuel, moi j'interviens sur tout type de d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir effectivement un appel d'une entreprise qui me dit, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, on a promu une personne et on aimerait que vous l'accompagniez pour que ça se passe bien, mais j'ai accompagné aussi un artisan il n'y a pas très longtemps qui était sur une problématique au départ de gestion de temps, et puis en creusant, on s'est aperçu que sa problématique de temps était due à au fait qu'il ne savait pas dire non.
Ah oui.
Et donc du coup, ne sachant pas dire non,
il
prenait n'importe quelle commande, n'importe quelle demande, etc., qui n'était pas toujours rentable. Et du coup, il se retrouvait avec un employé temps de dingue. Et du coup, quand on a travaillé autour de ça, ça lui a permis effectivement de se rendre compte déjà de ça. Et puis, de prendre des décisions et d'apprendre à dire non. Et du coup, comme par miracle, il a gagné du temps et de l'argent également. On peut intervenir sur différentes problématiques, différentes entreprises, et encore une fois, dans un non-jugement, la différence, par exemple, entre la formation, même si j'ai une vision de la formation qui est évidemment un peu différente de tout ça, mais... la formation va arriver, on va apporter des apports théoriques, etc.
Oui, c'est un outil,
et on va être un petit peu plus vertical dans l'approche. Le coach, il est là comme un catalyseur.
Oui.
On part du principe que celui ou ceux qui ont les solutions, c'est les coachés. Et nous, on intervient pour aider le coaché à trouver ses propres solutions.
À émerger, à faire émerger.
Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à l'exemple que tu prenais tout à l'heure. C'est que dans l'entourage, si vous avez une problématique que vous évoquez, très souvent, on va vous dire « tu devrais faire ça ». Moi, j'ai fait ça, tu devrais faire ça. Pourquoi tu as fait ça, etc. etc. Bref, il y a du jugement. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là en coaching. On repère ce qui dysfonctionne et on travaille et on fait en sorte que vous trouviez une solution sur laquelle vous êtes aligné.
Merci Patrick. Christophe Lhermitte, vous pourriez faire appel comme ça à
ça a déjà été fait. Je pense que c'est même...
C'est pour ça que vous arrivez à dire non.
Entre autres, oui, et je pense que c'est même pour ça que je suis arrivé à faire toutes mes dingueries
tout
en chocolat.
Voilà. Ouais.
Donc ça a mis du temps, j'ai appris à me connaître, je me suis appris à me connaître. Donc voilà, je vais dire que, et le coaching, je trouve aussi que c'est un temps pour soi.
Oui, voilà. c'est vrai.
C'est un temps pour soi où, entre guillemets, on se sent un peu pris par la main et voilà, donc parce que... Moi, en tant que chef d'entreprise, en fait, on donne pour les autres.
Ouais,
on donne pour les autres.
Ça permet de souffler un peu et de se reposer sur quelqu'un.
Et ça nous permet d'ouvrir notre esprit. Voilà.
Merci,
c'est comme
Christophe,
ça que je le perçois. Voilà.
Une belle définition aussi, encore.
Un
temps pour soi.
Très, très belle définition, oui.
Et vous, Frédéric, alors
Ça ne m'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que ça m'aurait peut-être été très, très profitable.
Oui,
hein,
oui.
Certainement.
Voilà,
il y a peut-être choses qui se seraient...
Et si je peux me permettre, nous, entre guillemets, entre chefs d'entreprise... On est quand même dans une société où on est quand même beaucoup bousculé. Ça permet de prendre du recul et du recul. Voilà. C'est surtout ça. Pour la petite anecdote, au mois de décembre, entre l'ouverture de ma deuxième boutique, le 19 décembre, alors, tout le monde fait son métier, j'ai pas rien à dire là-dessus, mais le 19 décembre, un contrôle de la répression des fraudes. Et le 22 décembre, quand j'ai ouvert le 21 décembre, deuxième contrôle.
Ah, bon. Mais bon, tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé. Voilà, ils font leur travail déjà.
Et oui,
mais
et en oui, fait, c'est, tout, c'est tout programmé ça, comme ça.
C'est programmé. C'est ça, il y a des, ouais. Il y a des choses qui sont faites, qui doivent être faites aussi. Et c'est très bien ça. Et ça protège, que... ça protège tout le monde. Mais derrière, voilà.
Le donc, préfet est très actif, hein, de ce côté-là.
Bien sûr. Comme je dis, j'ai aucun commentaire négatif. C'est que positif parce que ils font leur travail et on doit faire notre travail aussi.
Bien sûr, bien
sûr. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Merci, Christophe. Patrick, très vite, parce qu'il faut que je donne la parole à Jérôme. Vous animerez prochainement une conférence au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France sur la gestion de l'agressivité.
Oui, alors effectivement, ça c'est, je dirais, l'autre casquette. Parce qu'en fait, tout est parti d'une formation que j'ai faite en pharmacie. J'avais coaché et formé une pharmacienne titulaire d'une belle pharmacie dans le sud de Paris. Et elle m'avait effectivement appelé pour l'aider parce qu'elle sentait l'agressivité monter dans sa pharmacie, une agressivité des patients qui ruisselait aussi sur son équipe, qui sous tension devenait effectivement tendue. Donc j'ai mis en place une formation, je suis intervenu donc pour cette pharmacie donc en formation là pour le coup, comment gérer l'agressivité. Et bon, les choses se sont très très bien passées et du coup là le Conseil de l'Ordre d'Île-de-France m'a demandé de faire une intervention pour effectivement auprès d'un public de pharmaciens en Île-de-France présenter effectivement dans les grandes lignes cette formation. Comment gérer l'agressivité, qui est un sujet qui malheureusement se développe aujourd'hui pour toutes les entreprises qui sont notamment face publique. Donc ça peut être les commerçants, ça peut être les organismes publics où effectivement l'agressivité est présente. Donc comment je gère ça, et ce sera la conférence que je vais faire effectivement au mois de juin, là, début juin, la semaine prochaine.
Il faudrait peut-être aussi comment questionner les clients dans une pharmacie, parce que c'est les clients qui peuvent être agressifs, mais parce que parfois ça peut être très très long, il y a une grande attente et
bien sûr, mais dans la conférence je vais d'ailleurs distinguer agressivité et agression, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Et je mets surtout en avant les déclencheurs de l'agressivité et les phénomènes accélérateurs de l'agressivité. Et c'est évidemment quelque chose de très important de savoir effectivement faire le distinguo et de voir à quel moment l'agressivité peut se déclencher et puis à quel moment les choses s'accélèrent. Donc il y a toute une organisation à mettre en place dans les pharmacies, les commerces quand on est confronté à ce sujet. Voilà.
Allez, une dernière question. Donc, adhérent de la Pavade, depuis peu, j'ai compris.
Oui, effectivement. En fait, moi, je suis basé donc dans le Vaudoise. Je suis à Sannois. Et je suis toujours d'ailleurs dans un autre réseau d'affaires. Et un de ses membres est également membre de la Pavade. Donc, du coup, il m'a convié à un déjeuner. Et ça a été un coup de foudre.
Carrément.
Puisqu'à l'issue du déjeuner, j'ai dit, allez, j'y vais. J'ai trouvé d'abord ce réseau très dynamique, très simple. Pas de cinéma.
Pas de chichi.
Et très malin aussi, parce que non seulement il y a le travail et la relation qui existe entre les membres de l'ADPAVAB, mais surtout il y a un potentiel dans ce réseau à créer des liens avec d'autres réseaux.
Il y a une vraie ouverture.
Qui m'a beaucoup, beaucoup séduit. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis un adhérent convaincu.
Très bien. Merci beaucoup, Patrick Cohen. Merci pour tout cet éclairage. Allez, on fait une pause encore avec Michel Berger, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Et on retrouve tout de suite après Jérôme Catherine. À tout de suite.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio, une spéciale Adpavab en compagnie de quatre chefs d'entreprise qui sont Christophe Lhermitte, fondateur et dirigeant de Nature et Cacao, Patrick Cohen, président de la société Mon Coach Formateur, Frédéric Baird, fondateur dirigeant de FDBI Imprimante 3D et Jérôme Catherine, président de JFC Immobilier. Alors Jérôme, donc vous avez créé votre société il y a à peu près un peu plus de 2 ans. Peut-être aussi nous expliquer pourquoi vous êtes venu à cette création.
J'ai un parcours un peu atypique finalement parce que ça a été une vraie passion l'immobilier pour moi. Moi je suis diplômé donc de Sciences Po à Paris où j'ai fait un master en marketing, donc on s'attend plutôt à des études politiques ou autres. Et rapidement je me suis intéressé aux nouvelles technologies. Bon, vous me direz, on voit toujours pas le lien avec l'immobilier. Et en fait, en parallèle de mes études du coup, j'avais commencé à travailler dans une agence immobilière donc à Saint-Ouen où je faisais des annonces, des visites d'appartements, et il y a une vraie fibre qui s'est créée à ce moment-là. Donc ça, c'était il y a 12 ans. Entre-temps, j'ai eu diverses expériences à côté, hein, finalement, de mes études. Donc un stage à Londres dans une conciergerie immobilière, donc tout ce qui est gestion de courte durée, qui s'est progressivement transformé vers la colocation pour jeunes professionnels dans des maisons donc au centre de Londres. Et puis, en parallèle d'un autre stage à Porto au Portugal en cabinet d'avocat, donc toujours rien à voir, on dirait, j'ai géré pour le compte de mon propriétaire de Porto tout seul à ce moment-là, donc la location en courte durée et d'une chambre chez lui et d'un appartement. Et progressivement, de fil en aiguille, je me rendais compte qu'il y avait une vraie passion qui se développait, et en revenant maintenant donc à Paris, donc je continue et je termine mes études. J'ai plutôt fait toujours dans l'informatique, hein, donc un premier stage donc à Microsoft, et puis après je m'oriente vers des postes plutôt de commerciaux jusqu'à être directeur commercial il y a pas longtemps dans un cabinet de conseil en infrastructure informatique. Mais ce que je dis pas, c'est que pendant toutes ces 12 dernières années, en parallèle en fait de ces activités plutôt professionnelles, il y avait aussi une vraie passion et une vraie activité personnelle qui se développait. Donc j'ai fait l'acquisition de ma résidence principale, où j'ai commencé à mettre en location une chambre Airbnb. Donc ça fait bientôt 7 ans. J'ai accompagné mon entourage sur l'investissement de bout en bout, hein. Donc on va chercher le bien, on va chercher le financement, on va faire la rénovation, on va faire la location. Et en fait, ça a été un déclic de me dire, mais tout ce que tu fais, déjà si tu le fais à côté de toute ta vie
auprès de ses proches,
professionnelle, hein. C'est que tu as envie de le faire, hein, parce que généralement quand on a fini de travailler, on a plutôt envie de se poser, de se reposer. Et quelque part, il faut aller chercher un peu plus loin. J'ai aussi créé beaucoup de liens avec Airbnb, finalement, le siège, parce que c'est une vraie communauté, on s'en rend pas forcément compte, mais le siège à Paris est vraiment présent. Je suis rapidement devenu super hôte. Donc super hôte, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on a des très bonnes notes. Et ils m'ont proposé il y a 5 ans de devenir ambassadeur. Et ambassadeur, c'est pas un poste, c'est plutôt dans cette logique de communauté, la possibilité d'accompagner des personnes donc qui veulent se lancer. Pas du tout professionnellement, mais des personnes qui veulent se lancer, qui ont des questions sur tout plein de sujets. Comment j'accueille des voyageurs, comment je poste mon annonce, comment je fais ma stratégie de tarification, hein, parce qu'il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et j'ai accompagné près de 400 personnes avec les mises en relation avec Airbnb, mais de façon un peu bénévole, parce que quelque part, on reçoit juste une petite récompense s'il y a une conversion, si ça fonctionne. Mmh. Et c'est une fois, et même s'il y a eu des centaines d'échanges. J'ai finalement développé une vraie expertise, hein, déjà par ce poste en agence immobilière à temps partiel, ensuite avec les liens avec Airbnb, et je me suis dit à ce moment-là, c'est un peu dommage de pas en faire bénéficier davantage de personnes. Donc j'ai créé sur cette base-là, il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant, ma société, avec une logique aussi de positionnement différenciant, dans le sens où aujourd'hui, vous allez avoir sur le marché soit des agences immobilières classique, hein, donc gestion standard vente, soit des conciergeries, ce qu'on appelle de la conciergerie, donc c'est un modèle agence, mais
on
qui va gérer
de plus en plus, oui.
Exactement, de la courte durée, mais qui n'a pas forcément les mêmes contraintes réglementaires, hein, il faut le savoir, qu'une agence immobilière qui est très auditée, qui est amenée à faire de la gestion des fonds. Une conciergerie qui n'a pas ce qu'on appelle la carte G ne peut pas officiellement faire de la gestion, en tout cas en France.
C'est ça. Ouais,
donc, on a de plus en plus ce modèle un peu hybride entre l'agence immobilière et la conciergerie, mais moi je voulais quelque chose un peu plus loin, qui soit aussi à la frontière de la gestion aussi de patrimoine, où on accompagne finalement dès l'idéation du projet. Donc avec quelqu'un qui veut se lancer et qui sait pas forcément quel type de bien acheter, où acheter, quelle rentabilité, comment l'exploiter. Quand je dis comment l'exploiter, c'est quel type de bail, hein, parce que finalement c'est très réglementé, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et l'idée pour moi, c'est de vraiment pouvoir être souple dans les différentes formes d'accompagnement, parce que ce sont des métiers qui se parlent entre eux, quelque part. Et sur un jeune investisseur, la question ne se pose pas. Mais je commence de plus en plus à rencontrer des personnes qui sont multi-investisseurs et qui ont des modèles différents, quelque part, en fonction de leurs biens par rapport à la localisation géographique. Et finalement, ce que je propose est intéressant pour eux, parce que quelque part, ils vont pouvoir avoir un seul interlocuteur, mais avec différents modèles qui seront adaptés à leur propre stratégie.
Pour plusieurs produits.
Donc voilà un peu.
Oui, c'est vrai que vous avez une vision transversale de l'immobilier qui dépasse largement la simple transaction.
Exactement, parce que il y a aussi quelque part un constat, parce que je suis pas issu de cette formation, et beaucoup dans mon entourage venaient me consulter alors qu'ils étaient accompagnés par des professionnels. Donc il y a une vraie interrogation à se dire, mais finalement, le métier est très technique, il évolue en permanence, hein. On parle souvent de diagnostic de performance énergétique qui évolue tous les ans. On a parlé de la loi Lemaire pour ceux qui s'intéressent à la location courte durée qui fait encore du bruit. On parle encore du dispositif Jeanbrun, du coup qui vient remplacer le Pinel. Et puis le maire de Paris a encore fait une annonce récemment sur les réseaux sociaux cette semaine, si je me trompe pas, comme quoi il allait se lancer à la chasse des beau civil. Et là, déjà, on se pose la question, c'est quoi un bail civil? Donc, on rentre dans un niveau de spécificité technique qui est pas toujours maîtrisé et qui est pas toujours évident, hein, faut aussi le dire, où ça fait appel à différents corps de métier, aussi bien des juristes que des avocats. Et ce qu'on se rend pas assez compte, c'est que le métier d'agent immobilier, donc c'est assez standardisé, mais doit être aussi accompagné par différentes formations techniques, juridiques, pour pouvoir aussi accompagner les clients dans ce monde qui ne cesse de bouger, pour le coup.
D'évoluer. Tout à l'heure, quand vous êtes présenté rapidement, on a évoqué cette multiplication des Airbnb. Et là où je voulais revenir, c'est que moi, j'ai vu un reportage récemment sur le fait que les villes sont en train de structurer de plus en plus ce pourcentage de Airbnb, parce que c'était sur la ville de Cassis, d'accord, à côté de Marseille, qui est, je crois, une des plus petites villes de France et qui doit avoir le plus grand nombre de Airbnb.
D'accord.
Et le maire de cette ville, qui est une femme, elle a décidé de réglementer les Airbnb parce que ça fait partir des habitants de Cassis. Mmh. Les loyers sont de plus en plus chers. Les biens à la vente aussi augmentent. Vous en dites quoi, vous, de cette régulation? Elle est nécessaire
Je vois pas du tout ça comme une mauvaise chose. En soi, c'est une réalité qui existe déjà depuis longtemps, hein, notamment à Paris. Hein, ça a notamment permis la création de ce qu'on appelle aussi le bail mobilité, hein, pour notamment donner la possibilité à des personnes d'avoir accès à un logement décent sur des périodes plus longues et à des tarifs, à des prix accessibles, hein, parce que c'est aussi l'enjeu quand on habite sur place de pouvoir se loger. En fait, l'objectif de ces lois et de ces réglementations, c'est aussi redonner le pouvoir de contrôler à différents niveaux. Parce qu'il y a le niveau local, au niveau de la ville, et puis il y a le niveau au niveau de l'immeuble. Parce que tout commence d'ailleurs par le règlement de copropriété quand on parle d'immeuble. Et l'objectif de ces lois n'étant pas forcément de contraindre ce qui existe, mais plutôt d'avoir un cadre de référence pour pouvoir savoir exactement finalement combien de logements sont en Airbnb dans une ville, pour pouvoir aussi mieux accompagner et mieux réglementer. Les villes ne sont pas foncièrement contre les Airbnb tant que les habitants peuvent se loger.
C'est ça.
Il faut pas non plus oublier qu'il y a des taxes de séjour qui sont payées par les voyageurs, qui varient en fonction des villes. Donc c'est aussi un revenu non négligeable pour des villes qui veulent se développer. Les touristes qui viennent, ou des voyageurs, hein, parce qu'on n'a pas toujours que des touristes, on a des fois de la famille, de personnes, des locaux. Hein. C'est aussi la cible des Airbnb. Hein. C'est aussi intéressant de pouvoir recevoir sa famille proche de chez soi, pas forcément à l'hôtel, permettent aussi de contribuer à l'économie locale. Donc il y a toutes ces logiques-là qui ne sont pas du tout négatives, mais qui permettent simplement d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure visibilité sur l'évolution de la ville, puisque c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, en France hexagonale, on compte environ 1 million d'annonces. Ce qui est intéressant, et ce qui va être intéressant avec ces réglementations, c'est de pouvoir cibler exactement quelles sont les villes, même si forcément on a une idée. Hein, on sait très bien qu'en Ile-de-France, et surtout à Paris, bon, un peu moins maintenant, il y a énormément d'annonces. Mais on va pouvoir cartographier quelque part les volumes d'annonces qui se développent dans ces grandes villes. Et puis, naturellement, ce qui va aussi se développer, et qui commence déjà, enfin qui est déjà bien développé d'ailleurs, c'est des résidences en Airbnb en dehors de ces grandes agglomérations, oui, où le besoin, quelque part, de se loger en longue durée est moins criant, pour le coup.
Mais oui, vous avez parfaitement raison d'évoquer tous ces sujets, parce que c'est la maire de Cassis dont reconnaissait que c'était quand même un apport financier important, et il y avait une personne qui faisait de la conciergerie, et elle reconnaissait aussi que cette régulation n'était peut-être pas une mauvaise chose pour elle-même. Voilà, donc il y a vraiment tout un aspect comme ça économique qui est important.
Exactement. Ce qui est vrai, c'est que ça complexifie davantage l'accompagnement. Parce que ça veut dire qu'il faut quand même être à jour des différentes réglementations et pouvoir aussi accompagner les propriétaires dans ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est pas évident non plus, puisque ça rajoute une couche supplémentaire à un métier qui est déjà assez intense. Pour autant, ça va aussi permettre de différencier ceux qui apportent un vrai accompagnement juridique et technique sur ce type de prestation, parce qu'il il s'agit pas uniquement de faire une annonce et puis d'accueillir des premiers voyageurs et puis on lance la conciergerie. Il y a un vrai travail qualitatif qui doit être fait, déjà au niveau de l'accompagnement au sens large, mais aussi au niveau de l'accompagnement du propriétaire, parce que quelque part le client initial c'est le propriétaire que ce soit le voyageur, donc ça va permettre aussi de professionnaliser encore plus le métier de conciergerie qui n'est pas autant encadré aujourd'hui que l'agence immobilière pour le coup.
Et aujourd'hui alors dans toutes les directions où vous allez, quelle est celle qui est proportionnellement, quelle est celle qui marche le mieux, enfin quelles sont, vers quoi tendez-vous plus?
C'est difficile de répondre à la question parce qu'il y a vraiment des vagues en fait, il y a une saisonnalité. Ce qui commence à redémarrer pour moi, c'est la question d'investissement, pour le coup, où j'ai une cible de clientèle plutôt CSP+, qui commence à se dire, bon, c'est le temps d'investir maintenant, et comment je le fais, où je le fais, quelle rentabilité espérer, et puis quel montage fiscal, je ne suis pas encore allé aussi loin, mais ça se pose, si on veut se lancer dans du multi-investissement sur quelques années ou juste faire un achat. J'ai aussi beaucoup de questions, finalement, en Île-de-France, sur l'accompagnement à la gestion. Comment je gère ? Parce que des personnes qui habitent à Paris, qui ont un appartement et qui déménagent pour des raisons professionnelles, ne savent pas comment s'occuper de leur appartement, tout simplement, parce qu'ils ont aussi des contraintes financières de remboursement de crédit, souvent. Et pour louer à Paris, pour rappel, les loyers sont plafonnés, ce qui fait qu'ils ne rentrent pas forcément dans leurs charges au moment de la location longue durée. La courte durée est très très compliquée, voire impossible. Finalement, quel dispositif on met en place ? Donc, il y a le bail mobilité qui sort un peu du lot, qui permet en fait de louer dans de meilleures conditions financières, mais qui est aussi très encadré. On est sur des baux plutôt de 10 mois maximum, non renouvelables, qui s'adressent à une cible plutôt de personnes qui soient des étrangers qui veulent se loger ponctuellement ou des personnes qui viennent s'installer à Paris pour des raisons professionnelles. Donc on sait que c'est plutôt plus long que la courte durée, mais moins long qu'un bail standard. Et puis, il y a aussi le bail civil qui a été beaucoup utilisé là sur ces dernières années, qui, dans les faits, s'adresse aux personnes qui cherchent une résidence secondaire. Et pour autant, oui, il a beaucoup été proposé à des personnes qui utilisaient le bien comme une résidence principale. Et ça va vraiment être ça, ma cible aujourd'hui, l'accompagnement et le conseil sur comment je fais. Parce que c'est pas simple.
Vous sentez finalement que c'est vraiment là où il y a un vrai besoin.
Il y a un vrai besoin qui est aussi spécifique au marché français. On connaît à quel point l'administratif français est important. Mais quelque part, qui est aussi un élément différenciant et qualitatif pour pouvoir vraiment gérer son patrimoine. Puisque à la fin des fins, ça reste une logique de gestion patrimoniale. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis à la frontière entre la conciergerie, l'agence immobilière et puis la gestion de patrimoine. Bien évidemment, je travaille avec un écosystème d'avocats, juristes et gestionnaires de patrimoine qui ne font que ça, mais ça reste des activités complémentaires.
Oui, on comprend que votre approche montre que l'immobilier n'est plus seulement un marché de transactions, mais un véritable univers de stratégie patrimoniale globale où l'accompagnement humain et l'expertise restent essentiels.
Tout à fait.
Alors, ma question à vous trois, donc vous pratiquez le Airbnb, Frédéric ?
Oui, en tant que voyageur, ça nous arrive régulièrement, aussi bien à titre de loisirs et de vacances, mais également, ça peut nous arriver d'utiliser ce type de structure pour loger un consultant sur une mission.
Bien.
Ça peut également se faire.
Oui. Donc vous trouvez que c'est une formule qui remplit qui coche toutes les cases.
Ça fait partie des solutions qui sont proposées, donc faut l'utiliser.
Merci Frédéric. Patrick Cohen.
Oui, moi aussi. En voyageant, j'utilise Airbnb. Mais je comprends aussi toutes les problématiques de ville, de gestion, de cadrage qui sont nécessaires. Mais oui, j'utilise.
Mais en revanche, l'un et l'autre, vous ne l'utilisez pas en tant que vous n'avez pas de bien que vous mettez en location Airbnb.
Non.
Pas encore. Christophe Hermite.
Ben, moi aussi, j'utilise à titre personnel, week-end, vacances, etc. Ben, les Airbnb, voilà. Donc, c'est des solutions de facilité et trouver rapidement.
Qui sont commodes,
donc, voilà. Donc,
Donc, vous voilà rassuré, Jérôme,
Sur
3 sur 4 invités, 3 utilisent le Airbnb.
La croissance du marché fait ses preuves. Hein. Autant d'annonces qui persistent et en ayant toujours une croissance de marché montre bien qu'il y a, une clientèle, en tout cas. Après, ce qui va être difficile dans les prochaines années, c'est que les gestionnaires sont de plus en plus professionnels, donc ça va être les particuliers.
Va
être difficile pour les particuliers de se différencier pour avoir une annonce performante parce qu'ils sont en concurrence avec énormément de professionnels et de conciergerie. Ça, c'est la réalité.
Alors, Jérôme, Catherine, la dernière question. Vous êtes adhérent de la PAVAB.
Oui.
Depuis peu de temps, j'ai compris aussi.
Exactement.
Oui. Depuis combien de temps ?
Depuis 3 mois, très exactement, parce que, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette activité, j'ai lancé il y a 3 ans en parallèle d'un poste à temps plein. Que j'ai quitté en début d'année. Et donc, mon objectif est vraiment de me concentrer à cette activité et donc à l'accélérer. Ce qui fait que j'ai aussi besoin de me retrouver au centre aussi d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont aussi qui contribuent donc à mon réseau et qui vont me permettre d'avoir ce regard extérieur. Hein, quand on est tout seul, c'est un peu les discussions qu'on avait précédemment pour pouvoir évoluer sereinement dans le développement de ma société.
Et pourquoi la PAVAB ?
Parce que je réside à Besançon, tout simplement.
Il y a 70 réseaux dans le Val-d'Oise.
C'est vraiment par rapport à ma présence géographique. Hein, je réside à Besançon, typiquement. Donc, avant d'aller chercher trop loin, je me suis dit pourquoi pas m'entourer de mon réseau proche.
Oui.
Bien évidemment, il y a le 95 au sens large, tout le réseau entrepreneur de la CCI. Mais voilà, l'ADPAVAM, techniquement, est le réseau le plus proche de chez moi.
Très bien. Et j'imagine que vous vous y sentez bien, donc vous avez déjà noué des contacts.
Très peu, parce que ça démarre, tout cas, les premiers contacts sont très bons, mais en tout cas avec plaisir pour pouvoir développer tout ça.
Alors, il y a une question que j'ai oublié de vous poser à chacun, on va la poser tout de suite. Pour vous contacter, Jérôme, Catherine, que faut-il faire ?
Soit sur LinkedIn directement, Jérôme Catherine, président de JFC IMO, sur Instagram aussi, Jérôme Expert IMO, ça fonctionne. Sinon, directement sur mon site internet, JFC IMO.
Très bien, merci Jérôme. Christophe Lhermite, où peut-on acheter vos chocolats ?
Donc, vous pouvez déjà me contacter via mon site internet, Nature et Cacao.
Si on a une demande particulière.
Voilà, il y a les boutiques en ligne. Donc, la boutique principale, entre guillemets, l'emblématique à Argenteuil, maintenant Saint-Gratien aussi. Donc, voilà, donc vous avez... Nature et Cacao, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, LinkedIn aussi, Nature et Cacao et Christophe Lhermite. Alors, c'est moi qui m'occupe que de Christophe Lhermite, le restant, je le fais faire. Voilà, donc je revendique.
Vous gérez tout seul.
Ouais, voilà, je transmets mes réalisations, certaines de mes réalisations sur LinkedIn avec l'intérêt de mes clients en général. Voilà, donc voilà.
Merci Christophe. Patrick Cohen.
Alors moi, vous pouvez me retrouver effectivement sur mon profil LinkedIn, donc Patrick Cohen Coach, et également sur mon site internet, mon coach moncoach-formateur.com.
Très bien.
Vous retrouverez les activités de coaching et de formation en management et en communication.
Merci Patrick Cohen. Frédéric Baird.
Également les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où nous sommes assez présents à travers les différentes, les deux activités.
J'ai demandé des royalties à LinkedIn.
Voilà. Sinon, le site fdbi.com, donc fdbi comme faire du boulot impeccable pour avoir les bonnes lettres.
Ah oui.
Voilà. fdbi.com. C'est un bon point d'entrée pour nous contacter, puisque toutes les activités y sont plus ou moins brièvement présentées, et surtout les contacts par ce biais-là se fait facilement. Donc, n'hésitez pas.
Merci Frédéric.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, il y a une petite traduction, juste un mot avant de se quitter. On refait un tour de table. Allez, Jérôme, avant de se quitter, un mot.
Riche.
Pardon ?
Riche.
Riche, ah, merci. Christophe.
Je veux dire gourmand, alors.
Voilà. Eh bien, humain.
Merci.
Et à PAVAB.
Évidemment, merci de le rappeler. Merci à vous pour vos témoignages passionnants et puis très concrets. J'ai adoré cette émission. Une émission qui nous rappelle que derrière chaque entreprise, il y a autant de femmes et d'hommes qui innovent, créent, transmettent et s'adaptent chaque jour. Donc, retrouvez cette émission en podcast hein, sur notre portail IDFM98.fr. Et merci vraiment à tous d'avoir participé en direct à cette émission. Merci à Juan pour la technique. Merci à nos auditrices, auditeurs, nos partenaires de nous suivre avec fidélité. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage sur vos réseaux. Retrouvez donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, sa rediffusion... je ne l'ai pas dit ça. Vous pouvez retrouver sa rediffusion mercredi à 13h et donc son podcast sur edfm98.fr. Moi, je vous retrouve vendredi pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Sachez que les programmes continuent sur EDFM Radio, donc restez connectés pour ne rien manquer des émissions à suivre. Belle journée et belle semaine.